Nous, on est un organisme communautaire, hein? Fait qu'un organisme à but non lucratif. Quand moi, je suis arrivée, il y avait une trentaine d'employés. On est focusé sur la mission, puis on est focusé sur l'offre de services, puis la priorité qui est d'offrir des services aux enfants. Fait que nous, le premier cri du cœur qu'on a lancé dans le cadre de la pandémie, c'était qu'on avait beaucoup trop d'enfants qui attendaient beaucoup trop longtemps.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 210e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que le groupe G7 qui est derrière ce podcast produit également deux autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité. Facebook et Commercial est un podcast 100% orienté commerce électronique. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez jeter un petit coup d'œil. Et cette semaine, je me fais un plaisir personnel sur le podcast. Dans la dernière année, chez G7 Media, on a accompagné trois organismes à but non lucratif en mode pro bono, Le Camp, la Fondation Enfant Soleil, ainsi que la Fondation Marie-Vincent. Et c'est un peu notre manière de redonner avec notre entreprise. Je suis donc très heureux d'avoir sur le podcast aujourd'hui Stéphanie Garraud, directrice générale de la Fondation Marie-Vincent. Stéphanie et son équipe ont vécu une croissance exponentielle depuis 3 ans, passant de 35 personnes à 80 collègues au moment où on se parle. Leur noble cause, celle d'aider les enfants victimes de violences sexuelles, gagne en visibilité depuis plusieurs années. On va donc tenter de continuer le tout avec le podcast du jour. Sans plus attendre, ma discussion avec Stéphanie Garraud. Stéphanie Garraud, vous êtes la directrice générale de la Fondation Marie-Vincent, un organisme qui aide les enfants et adolescents victimes de violences sexuelles. Au vu de votre impact colossal sur la société, vous avez été capable d'attirer beaucoup plus de financement dans les dernières années et de passer votre équipe de 35 à 80 personnes depuis la pandémie. Stéphanie Garraud, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Et Stéphanie, peut-être avant de discuter en détail de qu'est-ce que la Fondation, qu'est-ce que vous faites et comment vous opérez au quotidien, est-ce que c'est possible pour toi d'exposer un petit peu plus en détail ce que vous faites à la Fondation Marie-Vincent?
Absolument. Donc, à Marie-Vincent, notre mission, c'est de soutenir les jeunes victimes de violences sexuelles. Mais c'est aussi de développer des programmes de prévention, de donner de la formation. Donc moi, j'image tout le temps la mission puis le travail au quotidien de Marie-Vincent comme si c'était une maison, donc avec deux piliers puis un solage. Donc notre solage à nous, c'est la chaire de recherche. On finance une chaire de recherche en violence sexuelle qui permet que tous nos programmes, que notre travail soit toujours basé sur les meilleures pratiques. Ils collaborent au quotidien avec nos équipes pour s'assurer que le travail qui est fait à la lumière des meilleures pratiques, bonne gouvernance pour l'organisation. Puis nos deux piliers, le premier, c'est celui pour lequel on est le plus connu, c'est le soutien clinique. Donc tout ce qui est soutien, intervention immédiate auprès des familles quand il y a un dévoilement de violence sexuelle d'un enfant, soutien au niveau de l'intervention psychosociale qui est faite par nos professionnels et de l'intervention psychothérapeutique lorsque requis par les enfants. Donc ça, c'est la mission que les gens connaissent. Quand on parle de Marie-Vincent, enfants qui ont des besoins, on les soutient, on les accompagne. C'est la majorité de notre équipe. Je dirais qu'il y a une quarantaine de cliniciennes dans l'organisation. Le deuxième pilier, qui est néanmoins tout aussi essentiel et pertinent, c'est tout le volet prévention-formation. Donc, nos équipes qui développent des programmes d'éducation à la sexualité, éducation aux relations égalitaires. On intervient auprès des 0-5 ans, aussi jeunes que ça. On fait des programmes là, qu'on est en train d'adapter pour les 6-12 ans, puis aussi toute la prévention qu'on peut faire auprès des adolescents. Puis le volet formation, c'est de former les professionnels qui œuvrent soit à la direction de la protection de la jeunesse, dans les écoles aussi, avec les cours d'éducation à la sexualité, les enfants apprennent ce qui est acceptable, ce qui est inacceptable, le concept de bulle, les gens qui entrent dans notre bulle ou pas. Donc, il y a des dévoilements. Puis des fois, les professionnels à l'école, ils savent pas comment recevoir un dévoilement de violence sexuelle. Fait que Marie-Vincent, on offre de la formation. Fait que ça, je dirais là, rapidement, là, un tour rapide de ce qu'on fait, c'est nos deux piliers avec notre solage.
Mmh.
une cause noble, une mission qui est excessivement noble également. Et Stéphanie, on discutait, toi et moi, il y a quelques jours de ça, et tu me disais que la pandémie a mis en lumière encore plus le bienfait et l'importance de ce que vous faites au quotidien. Ça vous a même amené à passer vos équipes, comme je l'ai dit en introduction, d'une trentaine de personnes à plus de 80 personnes aujourd'hui. C'est sûr que c'est un petit peu difficile de poser cette question-là, mais quels ont été les éléments déclencheurs qu'il y a eu autant de lumière sur ce qui s'est déroulé et pour quelles raisons, à un certain point, il y a beaucoup plus de donateurs qui sont venus vous voir pour venir encourager la cause que vous défendez?
Bien, je dirais que c'est un peu avant la pandémie quand même aussi, dans le sens où, tu sais, la protection de la jeunesse, malheureusement, ça a toujours existé. Des enfants qui sont victimes d'abus physiques, de violences sexuelles, malheureusement, ça existe depuis toujours. C'est un peu tabou, par exemple. On n'a pas envie de savoir que, comme société, on a des enfants qui ont ces besoins-là. Je dirais que ça a peut-être commencé en 2019, quand il y a eu le décès de la petite fille à Granby, puis le gouvernement a mis en place une commission d'enquête. La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, ça l'a amené cet enjeu-là à l'avant-scène. Les médias ont davantage couvert. Tu sais, tout ce qui est violence conjugale aussi, c'est pas dans notre mission, mais juste pour imager, c'est tout d'un coup maintenant, là, dans les médias, on lit un xème féminicide. Ben, c'est pas depuis juste 2019 qu'il y en a. C'est juste qu'on a, c'est plus couvert de cette façon-là. Fait que c'est un peu la même chose en protection de la jeunesse. Je dirais que cet événement-là nous a amené à une prise de conscience collective comme société qu'il faut faire quelque chose parce que, bon, oui, le système public, la Direction de la protection de la jeunesse, croule sous le travail, les demandes, l'accompagnement, les difficultés d'intervenir auprès des familles. Puis là, ben, on rajoute la pandémie qui a isolé des enfants avec leurs agresseurs, qui a encore amené une autre sensibilité de la société, je dirais. Donc, ces deux éléments-là, qui sont deux éléments malheureux, mais qui font en sorte que, comme société, on se préoccupe davantage, ben là, ça a fait en sorte, nous, on a vu une différence dans la sollicitation. Les gens sont davantage à l'écoute. La cause a toujours été importante, mais on dirait que là, on est allé au-delà du tabou, puis on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut faire une différence. C'est comme ça qu'on le sent, nous, auprès des donateurs. Puis autant les gouvernements, là, on a eu plus de financement public aussi. Là.
Intéressant. Puis bon, pour servir cette cause, on se doit d'avoir des collègues, des équipiers à l'interne. Tripler une organisation, passer de 35, comme je l'ai dit, à 80, on se doit d'avoir une excellente gestion. C'est beau d'avoir une belle cause, mais pour être capable d'arriver avec des bonnes idées, des bonnes initiatives, on se doit d'avoir des bons systèmes en place. Comment vous l'avez vécu, cette croissance-là? Quelles personnes vous êtes allées chercher davantage? Quels étaient les manques criants peut-être que vous aviez selon la cause, encore une fois, que vous vouliez répondre?
Ben, je dirais que on est encore en train de le vivre et encore en train de s'adapter là. Honnêtement, nous on est un organisme communautaire, hein? Fait que un organisme à but non lucratif. Donc on s'organise quand moi je suis arrivée, il y avait une trentaine d'employés. Tu sais, on est focusé sur la mission, puis on est focusé sur l'offre de service, puis la priorité qui est d'offrir des services aux enfants. Fait que nous, le premier cri du cœur qu'on a lancé dans le cadre de la pandémie, c'était qu'on avait beaucoup trop d'enfants qui attendaient beaucoup trop longtemps. Fait que qui est-ce qu'on a besoin en premier? Ben, c'est des cliniciennes. Donc, on est allé chercher du financement pour embaucher des cliniciennes. Puis l'équipe a explosé, là. On est passé, tu sais, on a créé 22 nouveaux postes de cliniciennes. Puis ça inclut 10 postes qu'on a créés en ouvrant un deuxième centre Marie-Vincent en Montérégie. Fait que c'est la première chose qui a été faite, c'est le service est nécessaire. On crée des postes de professionnels qui peuvent soutenir les enfants. Mais vient ensuite avec ça tous les enjeux que toute organisation qui va croître de manière exponentielle va vivre. Là. Peu importe que ce soit une entreprise. Tu sais, il y a un membre de mon CA qui disait, dans le contexte d'une PME, nous autres, on est passé du P à du M rapidement. Puis là, ben, il faut mettre en place la structure, les processus, les procédures, l'accompagnement pour pouvoir soutenir notre croissance. Donc, on a, oui, embauché des cliniciennes, des nouvelles chargées de projet pour développer des programmes de prévention, mais aussi du personnel administratif pour soutenir cette croissance-là. Ça prend plus d'adjointes, ça prend, si on a une grande campagne majeure, mais j'ai une personne en philanthropie, mais tout d'un coup, je desserre beaucoup plus de donateurs, j'ai besoin de plus de personnes en la philanthropie. Puis le défi d'une fondation, c'est de maintenir au plus bas ses frais administratifs. Fait qu'il y a, il y a un équilibre à rechercher là à cet égard-là. Donc, faire croître le nombre de personnes qui offrent le service direct ou qui développent les programmes, puis faire croître, mais pas de manière démesurée, le soutien administratif pour pouvoir demeurer attractif puis être capable d'expliquer à nos donateurs qu'est-ce qu'on fait avec leur argent. Parce que eux, ils veulent qu'on aide des enfants, puis ils ont raison.
Bien sûr. Et parlant de donateurs, maintenant, on arrive, on vit cette croissance-là à partir de 2019. On sait tout ce qui est arrivé à partir de 2020. Et plus souvent qu'autrement, les organismes comme le vôtre vont faire cette collecte de fonds à travers des événements, à travers des levées de fonds. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gens dans un événement présentiel? Comment qu'on est capable de se retourner rapidement et d'aller chercher ce financement-là et de croître à la vitesse que vous avez était capable de grandir dans un contexte COVID? Comment vous y êtes pris? Parce que les fonds sont venus, vous avez grandi, mais il n'y a plus d'événements. Comment qu'on s'y prend?
Ben, je dirais que nous, là, on a été pris de court comme plusieurs organismes. Nous, en mars 2020, à quelques jours d'un des événements bénéfices majeurs de Marie-Vincent, est arrivé le grand confinement, si on peut dire. Donc, on a annulé notre événement. Puis là, le conseil d'administration, la permanence a dû se poser la question, est-ce qu'on fait le passage au virtuel? Parce qu'on se rappellera qu'en 2020, au printemps 2020, il y a beaucoup d'événements virtuels, d'événements bénéfices virtuels qui ont eu lieu. Fait que nous, on a dit non, ça nous tente pas de faire ce virage-là. Nous, on a choisi d'aller vers une grande campagne de financement. Donc, on a identifié 4 projets qu'on souhaitait financer et on s'est dit, ben entre 2020-2023, donc qui se termine au 31 mars qui arrive, on souhaite amasser 9,5 millions pour financer l'amélioration de l'accessibilité à nos services, ouvrir un centre en Montérégie, c'était un projet qui était déjà dans les cartons, pour continuer de financer la chaire de recherche, notre salage dont je parlais tantôt, puis aussi financer d'autres projets de soit parce que dans nos objectifs on avait d'offrir des services en abus physiques puis développer des projets de prévention formation là. Fait que c'est le choix qu'on a fait. Donc, une grande campagne de financement, on a été extrêmement choyés d'avoir comme président de campagne Charles Lémont, qui est le PDG de la Caisse de dépôt et de placement du Québec, donc qui a un rayonnement extraordinaire, qui a eu un engagement personnel. Il y a des enfants, Charles Lémont, c'est quelqu'un qui a décidé de s'engager à 100 000% dans sa comme président de campagne. Il a recruté un cabinet extraordinaire. Là, on avait en tout 10 personnes qui sollicitaient au nom de Marie-Vincent. Puis c'est clair que c'est ça qui a fait la grande, grande différence.
Wow. À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique concernant l'entièreté de l'année 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance pendant l'année au complet? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Clayview. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accéder votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour débuter l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels ainsi qu'un plan de match personnalisé. De retour à l'épisode en cours. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, je pense que il peut y avoir, et peut-être ce serait intéressant de t'entendre un petit peu, Stéphanie, ici, il peut y avoir des donateurs, bien entendu, financiers. Il peut y avoir également des gens qui vont faire du travail comme M. Aymon le fait. Comment tout ça fonctionne? Si demain matin, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, des entreprises qui ont peut-être des fonds qu'ils veulent vous donner ou peut-être qu'ils ont des services également qu'ils seraient prêts à offrir en pro bono. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment ce volet de donation-là fonctionne avec votre organisation? Parce que les gens qui écoutent le podcast Hypercroissance, essentiellement, c'est des chefs d'entreprise et peut-être qu'ils auraient intérêt, qu'ils auraient envie de vous donner un petit coup de main aujourd'hui.
Ben, je dirais qu'il y a plusieurs façons de contribuer, là. Grand public, là, si je peux dire. Nous, on a un ourson qui s'appelle Marvin, qui est offert à tous les enfants qui font une thérapie à Marie-Vincent. C'est le réconfort, c'est la constance. Puis depuis quelques années, on cherchait à le faire produire au Québec. Donc, c'est Raplapla qui produit tranquillement à Montréal nos Marvins. Et puis, ça nous permet, on a eu un partenariat avec Intelcom qui a livré à travers le Québec nos Marvins. Donc, ça nous a permis de vendre des Marvins. Fait que ça, c'est en continu. Quelqu'un qui voudrait contribuer à sa mesure, il peut acheter des Marvins. Il va sur notre site, marievincent.org, soit acheter un Marvin, soit faire un don en ligne. Ça, je dirais que c'est la façon grand public de contribuer. Après ça, des entreprises qui veulent faire des dons à Marie-Vincent, ben je vous dirais appelez à Marie-Vincent, puis on va vous mettre en contact avec notre direction du développement philanthropique. Puis en fonction, ben soit si c'est un don en argent, mais si c'est un don en produits et services, après ça on va aller référer les gens aux équipes. Je pense par exemple à J7 qui offre depuis un petit peu plus qu'un an du soutien, de l'accompagnement là au niveau des communications sur les plateformes numériques. Ben c'est ça dans le fond, si je me rappelle bien, c'est que notre responsable des coms a reçu un message sur LinkedIn, puis ensuite de ça, ben on a fait une collaboration qui pour nous est essentielle, inestimable. Puis, fait que c'est le genre de collaboration. Fait que toute façon est bonne pour nous joindre. Nous, évidemment, des fois, on déménage. Marie-Vincent à Montréal déménage. Donc, on va avoir des meubles à monter. Fait qu'on a des bénévoles. Il y a souvent des organisations qui font des corvées d'équipe là, pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'équipe, qui font du bénévolat. Donc là, il y a des gens qui nous ont approchés, qui vont nous aider à monter des meubles. Il y en a qui vont nous aider à déménager des choses. T'sais, on a aussi des entreprises qui nous offrent une partie pro bono de leur service. On a un fournisseur, il coûterait d'habitude, je sais pas, 25 000. Ils nous disent, ben on vous donne 10 000 en don, on vous charge 15 000. Fait que tout ce genre de contribution peut être faite là pour nous aider à mettre le maximum des sous qu'on ramasse dans les services directs aux enfants.
Et comme tu l'as mentionné, pour réduire un petit peu ces frais administratifs-là, pour Absolument. Être capable de soutenir cette mission qui est excessivement noble. Et si on regarde peut-être un petit peu en ratio, là, juste chiffres globaux, est-ce qu'on a davantage des donateurs qui seraient monsieur et madame tout le monde? Est-ce que c'est peut-être davantage des fonds publics, des entreprises privées? Peut-être que tu peux nous donner un peu un ratio global là, de à quoi ça ressemble, les donateurs chez la Fondation Marie-Vincent?
Mais je dirais que bon an, mal an, c'est à peu près un 50% de financement public, 50% de financement privé. Là, on a un peu plus de financement privé parce que la campagne majeure a eu un impact significatif, là. Mais dans les dons privés, c'est principalement des donateurs corporatifs. Là, j'entends entreprises, fondations familiales aussi. Tu sais, c'est 80% là, de nos dons qui viennent de ce véhicule-là, si je peux dire, là. Mais c'est aussi ça, c'est un résultat de la campagne, là. Dans le fond, il y a presque en volume là, il y a presque 4 fois plus de donateurs corporatifs qu'il y en avait avant la campagne. Donc c'est à peu près ça le portrait là qu'on a, je dirais. Puis c'est sûr que notre campagne de financement a aussi fait augmenter les dons du public parce que on l'a associé à une campagne de relations publiques, on était davantage présent dans les médias, on a quelqu'un sur notre CA qui nous a donné accès à de la visibilité médiatique gratuite. Donc tout ça c'est des choses qui nous ont aidé à être plus présents. Puis on a une porte-parole extraordinaire en Mélissa Desormeaux-Poulin qui, à chaque fois qu'elle va dans les médias pour parler de ses projets personnels, elle parle de Marie-Vincent. Puis pour nous, il y a un impact automatique. Là. Dès que Mélissa parle de Marie-Vincent, il y a des dons qui sont générés auprès de notre fondation. Je dirais que le don moyen du grand public est autour de 200 $ là.
Quand même. Intéressant. Puis, j'aimerais savoir un petit peu aussi, parce que cette croissance-là que vous avez eue de votre côté, ultimement, une des conséquences qu'on pourrait dire positives, c'est que vous avez ouvert un deuxième emplacement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que là, vous avez besoin de plus en plus d'espace pour accueillir tous vos collègues à l'interne.
Oui, puis accueillir aussi tous les enfants qui ont recours à nos services.
Bien sûr.
Le projet d'ouvrir un deuxième centre de Marie-Vincent, c'était déjà un projet sur lequel on travaillait avant la pandémie, avant la grande campagne. Parce que, dans le fond, le constat de difficultés d'accès, les délais d'attente pour accéder à nos services a été fait, tu sais, avant la pandémie. Et puis, on a constaté qu'il y avait 30 % des enfants qui attendaient, qui venaient de la Montérégie. Donc, il y a eu toute une analyse de marché, une analyse force, faiblesse, opportunité, menace et tout ça pour voir où est-ce qu'on pouvait, parce que la Montérégie, c'est immense comme territoire. Donc, où est-ce qu'on devrait ouvrir? Où sont les besoins, où sont les partenaires mobilisés, puis comment Marie-Vincent peut répondre à ça. Donc, le projet a été fait d'ouvrir à Châteauguay, en Montérégie. Donc, on a ouvert notre deuxième centre. On a célébré la semaine dernière le 1 an d'ouverture. En un an, on a vu 71 enfants. On est rendu avec une équipe de 10 personnes, comme je disais tantôt. On est toujours en recrutement. Donc, s'il y a des professionnels qui souhaitent travailler à Marie-Vincent, en Montérégie, qui nous contactent, des psychologues ou des psychothérapeutes ou des intervenantes psychosociales, évidemment. On est en train de compléter l'équipe. Donc, ça, c'est le premier gros projet. Donc, on a loué, aménagé, puis organisé, puis installé un centre à Châteauguay. Puis Marie-Vincent est sur Papineau à Montréal depuis plusieurs années, mais là je dirais qu'on a profité entre guillemets de la pandémie dans le sens où et du télétravail pour reporter un déménagement, mais là on avait 5 personnes par bureau, il y avait plus d'espace, ça fonctionnait pas. Donc l'année passée, on est embarqué dans le grand projet de déménager le centre de Montréal. Donc on parle de 12 à 20 000 pieds carrés quand même. On va être sur un étage et demi dans le quartier Angus. Puis là on est en train là parce qu'au 31 mars on déménage. Donc dès le 5 avril, on va accueillir nos premiers enfants sur la rue Molson dans le quartier Angus. Fait que on est très fébrile, c'est très excitant, mais ça aussi c'est des coûts additionnels qui étaient pas prévus. Donc encore une fois là, tu sais, je pense qu'il y a plein d'organisations et d'entreprises qui nous soutiennent aussi pour nous permettre de déménager au coût le plus bas possible.
Bien sûr. Et je suis toujours curieux de savoir, Stéphanie, un peu l'évolution de la dirigeante ou du dirigeant dans une organisation. C'est-à-dire que quand l'entreprise est de 20 personnes ou de 10 personnes ou l'organisation est à cette taille, force est d'admettre que la chef de l'entreprise ou le chef de l'organisation va faire peut-être un peu tout. Mais plus qu'on grandit, plus qu'on se doit d'être sophistiqué. Et quand on grandit vite, eh bien là, il y a plusieurs défis qui peuvent venir avec ça. En date d'aujourd'hui, là, on enregistre le podcast, fin mars 2023. À quoi ressemble le rôle de Stéphanie Garreau dans l'organisation?
Je pense que l'expression « toute autre tâche connexe » prend tout son sens dans la description de poste d'une direction générale, notamment d'OBNL. Moi, je dirais que mon rôle principal, après 2 ans de croissance exponentielle, c'est d'assurer la consolidation de l'équipe, de m'assurer que les professionnels qui œuvrent au quotidien, tant en soutien clinique, en prévention, qu'au niveau de l'appui administratif, ont l'espace, le temps, les ressources, puis la capacité de remplir leurs objectifs puis leurs missions. Modérer mon enthousiasme aussi parce que c'est facile quand les besoins sont si grands de dire oui à tout. Ah oui, on va le faire. On va te faire un don pour développer tel truc. Ah oui, on va le faire parce qu'on a des besoins. Mais il faut aussi s'assurer que l'équipe est pas trop étirée. L'équipe a la capacité de prendre le temps pour faire les choses, pour bien faire les choses. Fait que d'avoir des locaux qui sont adaptés, qui sont accueillants, ça fait partie du travail, ça fait partie du constat. Mais là, je dirais aussi, c'est de s'assurer que, par exemple, nos professionnels qui font le soutien clinique on l'appuie pour préserver leur santé mentale et leur bien-être. Fait que pour nous, ça passe par offrir du soutien clinique interne. Il y a des collègues qui vont être disponibles, disposés à la à soutenir leurs collègues après une rencontre plus difficile avec un enfant ou après une accumulation de dévoilements, tu sais, insupportables. C'est difficile là, ce à quoi font face nos professionnels. Mais il y a aussi besoin des fois d'avoir quelqu'un de l'externe qui est capable d'offrir du soutien, quelqu'un qui est pas dans le quotidien de Marie-Vincent mais qui va soutenir. Donc on a recours à une psychologue. On offre des rencontres de soutien clinique externe à nos professionnels pour s'assurer que elles évoluent puis qu'elles ont le soutien requis pour bien aider nos jeunes. Fait que c'est ça aussi dans mon travail, c'est de m'occuper que mon monde va bien.
Ben oui, c'est important. Si on a une équipe qui va bien, habituellement, on a des patients qui vont mieux aller aussi et l'organisation va être capable de suivre la direction qu'on veut lui donner. Et t'as parlé, bon, de croissance exponentielle, t'as parlé de consolidation. À quoi qu'on peut s'attendre de la Fondation Marie-Vincent si on regarde un horizon peut-être de 12 à 24 mois?
Ben, on va être dans des locaux adaptés. On va avoir une équipe complète parce que là, on va arrêter de créer des postes puis on va arrêter d'embaucher. Je pense que c'est ça qu'on aspire. Puis on va être en mesure d'avoir une, tu sais, nous, on a des orientations stratégiques sur 5 ans. On a une planification annuelle qu'on est en train de finir là parce que notre année commence au 1er avril. Fait que je pense que ça va être d'être capable de remplir les objectifs qu'on se fixe dans notre planification annuelle, donc des objectifs qui sont réalistes puis qui répondent aux besoins des jeunes qui ont besoin de nous.
Et bon, c'est noble et encore une fois, on invite les gens qui nous écoutent aujourd'hui à aller jeter un petit coup d'œil. On mettra les liens de la Fondation Marie-Vincent dans les notes de l'épisode. Je terminerai, Stéphanie, peut-être avec toi sur des questions un peu plus personnelles. T'as des responsabilités qui sont élevées avec l'organisme. Comment tu fais peut-être pour décrocher un peu? Est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que c'est du sport? Comment tu t'y prends en dehors du travail pour essayer de penser à autre chose? Parce que soyons honnêtes, soyons transparents, c'est pas facile les dossiers que vous avez à travailler à tous les jours. J'imagine et j'assume que c'est le bien-être que vous faites dans la société qui vous motive à vous lever chaque matin, mais des fois, ça doit pas être facile. On se doit, j'imagine, de trouver d'autres passe-temps pour penser à autre chose. À quoi ça ressemble tout ça?
Ben, avant, j'aimerais ça dire que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me font exactement ce commentaire-là. « Oh mon Dieu, comment vous faites pour travailler à Marie-Vincent? Ça doit être tellement difficile! » Oui, ce qu'on entend, ben, ce que les professionnels, les cliniciennes ou ce que les professionnels de prévention formation entendent, c'est difficile. Mais moi, ce que je dis aux gens, c'est que les enfants, quand ils sont chez nous, c'est quand ils sont rendus à bonne place. Ils reçoivent de l'aide. Fait que c'est pas rare que moi, dans les corridors, j'entends des enfants qui rient. Puis, quand j'entends des enfants qui rient, je m'émerveille de leur résilience, mais je me dis qu'on est sur notre X parce qu'on est à la bonne place, on fait ce qu'il faut. Fait qu'une fois que j'ai dit ça, je ne suis pas un modèle d'équilibre, donc je travaille beaucoup trop. et moi, j'ai pas de passe-temps dans le sport parce que j'ai pas le temps d'en faire. Mais je dirais, puis c'est un peu ironique, mais bref, j'ai pas vraiment le temps de lire. Moi, ce que je lis, c'est des livres de recettes, puis ça me permet de faire ma planification de repas dans la semaine parce que j'ai aussi 2 enfants. Donc quand j'arrive à la maison, j'ai mon 2e chiffre qui commence. Fait que je dirais que c'est un peu comme ça, mais c'est de décrocher, c'est d'avoir des façons où on n'est pas pris après notre téléphone puis qu'on pense pas au travail puis au livrable qu'on doit faire. Fait que c'est peut-être un peu ça.
Donc on essaie de se détendre en faisant de la cuisine ou en pensant à autre chose. J'imagine que ça doit aider.
Ben parce que quand on fait des recettes, faut lire les ingrédients puis il faut lire la marche à suivre. Pendant ce temps-là, notre esprit est occupé, donc ça aide à décrocher.
Fantastique. Ici, on veut en apprendre un peu plus. Site web, médias sociaux pour en apprendre davantage sur ce que vous faites au quotidien.
Oui, marie-vincent.org. Puis on est assez actifs sur nos plateformes numériques, donc Facebook, LinkedIn, Twitter un peu moins, Instagram aussi. Mais bref, on essaie d'être là où les jeunes sont parce qu'on peut aussi faire de la prévention via nos médias numériques.
Bien sûr. Stéphanie Garreau, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Félicitations encore une fois pour la cause que vous défendez, pour l'impact que vous avez pour la société québécoise. Je pense que c'est tout à votre honneur et on se doit de mettre en lumière ce que vous faites pour vous aider à continuer, à vous donner toutes les munitions nécessaires pour accélérer vos ambitions. Donc, espérons que les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui auront la chance d'aller voir ce que vous faites et peut-être deviendront des donateurs. Donc, on mettra encore une fois, je le répète, des liens dans les notes de l'épisode. Stéphane Garreau, merci beaucoup. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.